Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Violence conjugale et esclavage moderne, quels sont les droits des victimes ? Sous la pression d'associations et de mouvements féministes comme MeToo, Nous Toutes, Féminicide par conjoint ou ex, le gouvernement français a été contraint de prendre en main la question des violences conjugales qui continuent de faire des victimes. Un Grenelle des violences conjugales a été lancé le 3 septembre dernier, vous le savez, par la primature pour alerter l'opinion sur ces abus entre conjoints et pour prendre des mesures efficaces. Le droit et nous revient sur les violences conjugales pour informer les victimes sur leurs droits et ouvrir le débat avec les auditeurs sur des questions délicates que soulève la pénalisation de certains abus dans le couple, notamment le viol dans le couple et les violences conjugale psychologique. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
0155 07 58 00 précédé du 33 si vous nous appelez de l'étranger pour débattre avec nous. Alors Aliutal, première question, quels sont les différents actes susceptibles de constituer une violence conjugale ?
Alors, je pense qu'il faudra d'abord, comme vous l'avez bien rappelé, que le droit et nous n'a pas attendu le Grenelle sur les violences conjugales pour aborder la question, effectivement, des violences dans le couple que nous avons à plusieurs reprises traitées et abordées. Mais comme ça fait l'actualité et qu'il y a une mouvance féministe qui met au devant de la scène cette question et que le gouvernement a décidé de prendre en main cette question, il y a lieu de rappeler à nos auditeurs quelles sont l'étendue de leurs droits et de leurs obligations. Donc, à ce niveau, il faut dire que c'est un principe de droit fondamental, que toute personne a droit à son intégrité physique. Ça, c'est l'expression du droit, mais ça veut dire que mon corps m'appartient. Le corps de Phil appartient à Phil. Personne n'a le droit de le maltraiter ou de le frapper, de lui porter un coup ou des blessures volontaires. C'est le principe fondamental qui sous-tend la liberté de la personne de disposer de son corps. Et il y va donc effectivement du droit de ne pas être frappé, de ne pas être violé et ainsi de suite. Ainsi, le mariage, par exemple, ne doit pas être un moyen pour un conjoint déterminé d'imposer à l'autre des règles qui ne dépendent pas de ses prérogatives en tant que conjoint. Je donne un exemple, c'est parfois en général on parle de l'homme, mais comme on l'a dit souvent, ce n'est pas que l'homme maintenant, ça peut être d'autres formes de violence,
ça peut être,
et que l'homme peut être aussi la victime de ces formes
de violences psychologiques.
Et effectivement, donc d'ailleurs que nous allons traiter. Et les actes de violence, comme vous l'avez dit, peuvent être physiques, ça peut être des coups et blessures volontaires, ou bien psychologiques, ça peut être des injures, de l'harcèlement moral, des menaces et des intimidations, du chantage, du genre, tu vas voir. Par exemple, quelqu'un qui va dire, vous imaginez, on est dans le droit et nous, la question que je vais aborder, si tu ne m'achètes pas la dernière Nissan Qashqai, tu ne vas pas renouveler ton titre de séjour.
Ou le dernier iPhone 11.
Tu ne vas pas renouveler ton titre de séjour. J'ai entendu ça, ce n'était pas une Nissan, mais c'était quand même un chantage pour le véhicule.
C'est du chantage.
Carrément, la femme a exigé que l'homme lui achète un véhicule et que l'autre était has-been d'après ses termes et qu'elle voulait, par rapport à son standing, un véhicule de dernière marque. Et donc, la contrainte qui n'a pas été dite ouvertement était que sinon je pourrais constituer un blocage pour le renouvellement de ton titre de séjour. Je ne vais pas donner les documents qu'il faut parce que la conjointe était une ressortissante française, africaine certes, mais ressortissante française. Et donc le monsieur était obligé plus ou moins de chercher des voies et moyens pour prendre un crédit. Il a quand même fait
un crédit pour acheter la voiture
pour la femme, et ça s'est mal passé. On va y revenir, c'est une histoire très triste. D'ailleurs, que la personne m'a proposé qu'on essaye, c'est un auditeur qui nous écoute, d'en faire par exemple un reportage documentaire ou bien un film avec un scénario, parce que c'est une question qui fait pleurer quand on va jusqu'au bout. Donc il y a des chantages qui existent et ça peut constituer une violence.
Ce serait peut-être l'occasion aussi de lancer un appel pour la création des SOS hommes battus, parce qu'on parle beaucoup plus de femmes, mais il y a des hommes aussi qui subissent des violences.
Bah oui, effectivement, elle parle de féminicide, alors que déjà il y a un nom homicide, c'est de manière globale. Mais sinon, on va dire hominicide après. Quand on tire après, chacun tire le drap de son côté, ce n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est de créer l'équité dans le couple, qu'il n'y ait pas une partie qui domine l'autre. Et le fait de résoudre ce problème ne peut pas constituer à reverser la tendance, donner le pouvoir à l'autre. Ça veut dire qu'il y a toujours un déséquilibre dans le couple. Et malheureusement, ces tendances en Europe vont dans ce sens-là.
Alors, à Aliutal, il faudrait aussi souligner qu'il y a certaines traditions aussi qui sont imposées du côté de l'Occident. C'est-à-dire, bon, on a ses traditions ou sa religion, et parfois, il y a des comportements qui laissent à désirer.
Et effectivement, il y a des comportements, et puis ces traditions, c'est un peu partout. Par exemple, aussi dans certaines communautés asiatiques, africaines et européennes aussi, par exemple, c'est les bourgeois. En Europe, les femmes avaient l'habitude de subir. C'est une soumission acceptée. Parce que la femme, elle doit être bien traitée, occupée, avec donc toutes les... les femmes qui sont à sa charge, je veux dire, la petite cour, et l'homme doit partir chercher le travail et venir parce qu'il y avait un héritage déjà, il n'y avait rien à faire. Et donc finalement, effectivement, il y a ces comportements un peu hérités dans l'histoire, dans le passé, qui font qu'effectivement, il y a des abus qui existent même dans les sociétés européennes, à fortiori dans d'autres sociétés, par exemple des sociétés africaines, où il y a des coutumes carrément qui organisent la société et le couple, de sorte que c'est l'homme qui est le chef de la famille.
Ouais.
Et de sorte même encore que dans certaines législations, il est carrément marqué que l'homme est le chef de la famille. Mais par contre, en tant que chef de la famille, il y a des conséquences, des charges qui dépendent de lui. Par exemple, la dépense quotidienne, c'est à lui de le faire.
Ouais.
Donc finalement, c'est une autre forme d'équilibre. Ouais, c'est une autre forme d'équilibre donc, sociétal. Donc il faudra, en résumé, dire que le fait d'être marié ne vous donne pas le droit de porter des coups et des blessures volontaires, ni de faire donc, des chantages ou bien une pression psychologique, un harcèlement moral. Au contraire, le statut de conjoint est une circonstance aggravante du délit de violence en tant que telle, la violence classique. Les actes de violence, pour répondre exactement à la question, peuvent être physiques, comme on l'a dit, ou psychologiques. Ça, il faut le retenir. Mais maintenant, ça peut être aussi des actes de nature sexuelle. Et là, on va solliciter nos auditeurs sur certaines questions pour leur demander ce qu'ils en pensent.
Voilà, justement, peut-on parler de viol si on est marié légalement? Peut-on violer sa propre femme?
Et effectivement, parce que la loi en Europe a évolué. Maintenant, le fait de faire des attouchements sexuels à sa propre femme, d'agresser sexuellement sa propre femme, ou bien même de lui demander de faire l'amour alors qu'elle n'a pas envie, ça constitue un viol et c'est réprimé à 20 ans de prison. C'est assez grave. Dans les pays nordiques, c'est encore pire. Ils ont inventé ce qu'on appelle le viol par surprise. La femme dort, elle a même pas dit non, mais elle était pas au courant que monsieur était en train de faire le cheminement classique pour passer à un rapport intime. Et ça peut constituer un viol par surprise.
Par surprise.
Ou bien même l'autre viol par surprise.
Et c'est condamnable aussi.
C'est condamnable et c'est dangereux. Parce que ça peut être qu'un couple qui est d'accord, la femme ou l'homme est son consentant, à un certain moment, l'autre vous dit « Oui, sinon arrête, j'ai plus envie ». Si vous arrêtez deux secondes après, vous êtes coupable de viol.
Mais si on faisait le chemin inverse, un homme qui n'a pas du tout envie et sa femme voudrait absolument le faire, est-ce qu'on peut parler aussi dans ce cas de viol plus ou moins? C'est-à-dire où il le fait par contrainte?
Ce serait du viol carrément, dans cette conception. Malheureusement, ils ont conçu cette notion de viol dans le couple pour protéger la femme. Ils oublient que ça peut être les hommes. Et la tendance...
Et ça arrive beaucoup.
Ça va venir.
Beaucoup d'hommes qui n'en parlent pas.
Ah oui, qui n'en parlent pas. Parfois même qui, par fierté, ne veulent pas en parler. Alors qu'on sait que dans la chambre, il n'y a pas d'homme fort.
Exact.
Et ça va me faire parler.
L'homme fort, c'est la femme dans la chambre, des fois.
Belle expression que je vais garder, Phil. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une histoire qui me concerne. C'est pas moi qui suis concerné. Ouais. Quand j'étais étudiant, j'avais une librairie. C'est une histoire vraie. Et qu'on vendait des livres avec un ami. Et on prenait des livres qui ne sont pas vendus dans les grands réseaux de distribution. Et parmi ces livres, il y avait des rayons où il y a tout ce qui est érotisme. Et j'ai vu un bon livre qui s'appelait le titre « Connaître la femme, comment faire plaisir et posséder la femme ». Moi, ça ne me concernait pas à titre personnel. Et j'ai un ami que ça concerne et je lui ai offert les livres. Et ce livre-là, lui, page par page, il voulait l'appliquer.
Ah
oui. Et sa femme pensait que le monsieur lui prenait comme cobaye.
Ah, d'accord.
Et commençait à se plaindre. Et lui disait que le monsieur est en train de lui infliger carrément une certaine manière de faire l'amour qu'elle considérait comme plus ou moins illégale. Parce qu'elle était juriste. Ça crée une tension. L'affaire de DSK, dont on se rappelle, portait pas sur le viol en tant que tel. C'est sur la manière de faire l'amour. Est-ce que ça peut constituer un viol? Est-ce que si cette manière est un peu dégradante et que la femme, du fait du rapport que vous avez,
d'ailleurs,
n'a pas pu dire non, est-ce que ce n'est pas une agression sexuelle? Donc cette question-là se pose aussi. Il faut faire très attention à ce niveau. Pour la violence conjugale, pour qu'elle soit retenue, qu'on a dit carrément, il faut que ce soit dans le cadre d'un couple. C'est très important. Soit qu'il y ait une union libre, un pax, un mariage. Mais attention, cela ne veut pas dire que si la relation conjugale est rompue, on ne peut plus parler de violence conjugale. On peut être violent à l'égard de son ex. On a vu ce qui s'est passé au Havre.
Ouais.
L'ex jaloux qui a poignardé carrément sa femme qui est décédée. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la rupture. Un certain monsieur Phil Le Montagnard qui sortait avec une certaine Stéphanie. Stéphanie l'a bazardé pour un certain Salah. Et le monsieur Phil est mécontent et attaque Salah, agresse Salah par des messages. Ça, c'est une agression, c'est une violence conjugale par ricochet. L'action polyenne, vous attaquez indirectement la Stéphanie qui n'a rien à voir avec vous maintenant, qui vous a largué et qui a le droit de le faire. Et si vous la menacez aussi, c'est une violence conjugale. La leçon, c'est de dire que même si l'union matrimoniale n'existe plus, vous pouvez être coupable d'agression ou bien de viol ou de menace psychologique portant violence conjugale.
Alors, on va essayer de prendre un peu des avis hein, de nos auditeurs. Vous êtes déjà nombreux à composer le 0155 0758 00, précédé du 33, hein, si vous nous appelez, de l'étranger. Oui, Aliutal.
Oui, juste terminer un petit truc par rapport, avant de donner la parole aux auditeurs, dire aussi que, parce que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une union pour que la violence conjugale existe. Cela ne veut pas dire que vous, si vous violentez votre copine, vous n'êtes pas marié, que vous n'êtes pas coupable.
Ah si.
Vous êtes coupable de violence, mais classique, mais pas conjugale. Donc ça, c'était très important de le préciser. Il ne faut pas que les gens disent que, oui, d'après ce qu'on a entendu, si on frappe sa femme, on risque rien, non, sa copine. Non, vous risquez. Le droit commun vous pénalisera.
Allô, allô, bonjour. Allô, bonjour.
Oh, les éditeurs. Nangadef Aloutal.
Ah, magnifique.
Magnifique. Magnifique, Rek.
Comment Amadou de Grenoble, là, effectivement, je vous écoute sur le droit. Il y a le droit civique, il y a le droit culturel, il y a le droit religieux. C'est-à-dire, il y a le trois droits. Ce que vous venez de dire sur Turan, qui avait la semaine passée, Turan, il a transgressé le droit civique antiracisme contre la culture européenne de blanc. Bon, or que il a eu la sélection des races, la race indien qui a été persécutée, la race noire qui a été toujours. Pour moi, l'esclavagisme, ce n'est même pas la traite des noirs, ce n'est pas une esclavagisme, c'est un crime contre l'humanité. Parce que pourquoi? C'est comme la Shoah. Effectivement, c'est comme la Shoah, c'est un crime parce que c'était
Je suis parfaitement d'accord.
Donc on revient effectivement sur ce côté-là. Turan, lui, il se tient contre la sélection des races qui a été fait, le pouvoir blanc. C'est la révolte, est-ce qu'on parle des Noirs, comme Jean-Paul Sartre qui a dit que les Noirs, vous devrez pas réformer l'esclavagisme, il faut utiliser la violence. Oh, que la violence, c'est pas bon pour l'être humain. Donc, quand vous parlez aussi que le gouvernement français, certains gouvernements français ont parlé de l'islam intégriste par rapport au Sénégal, il n'y a pas autovalorisation de musulmans. Est-ce qu'on prend sur ce côté-là aussi, on ne se valorise pas devant notre. Est-ce qu'on prend musulman, il y a le droit musulman et qui a.
Très bien, je comprends un peu votre propos, monsieur.
Tu as compris. Voilà. Oui. Donc, sur les droits, le droit conjugal, violence, dans l'amour, il n'y a aucune violence. S'il y a la violence, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est un amour conditionnel.
Voilà. Je vais vous donner une réponse maintenant. Merci monsieur.
Madou de Grenoble.
Merci. Je vais vous donner une réponse par rapport à deux points que vous avez soulevés. Ouais. Même si c'était avec la passion, mais c'est très pertinent. Mais je pense qu'il faut toujours dépassionner ses idées pour que ce soit plus pertinent.
Ouais.
Parce que ce que vous dites, c'est très intéressant. Je veux dire, quel est le rapport entre le droit positif, ça veut dire le droit cartésien, le droit écrit, et les autres formes de réglementation de la vie sociale, en l'occurrence le droit coutumier ou le droit religieux. Dans un système républicain, ces droits n'opèrent pas. Avant, c'était le cas. Certaines sociétés africaines étaient régies par le droit coutumier, ou bien le droit coutumier d'inspiration religieuse, islamique ou catholique. D'autres, carrément le droit religieux des pays musulmans où c'est la charia qui est appliquée, d'autres où c'est la loi canonique du Vatican qui est appliquée. Mais dans un pays comme la France, ce n'est pas le cas. C'est la loi de la République stricto sensu et basta. Tout ce que vous avez comme droit et devoir relève de la loi qui dépend de la Constitution. Ça veut dire que vous devez observer ces normes si vous voulez vivre ici et ne pas essayer d'inventer un autre ordre juridique. Vous serez en faux. Dans l'absolu, dans une discussion un peu entre vous et moi, on peut en parler. Mais là, on est dans le droit et nous. On est obligé de vous dire ce que le droit dit et ce que vous risquez à travers le droit. Donc, pour fermer la parenthèse sur Turam, effectivement, ce que vous dites, ça peut se tenir, mais faites très attention à ne pas dire ce genre de choses dans un système républicain ou qu'on dit res publica, la chose qui appartient à tout le monde, ou democratia, le pouvoir appartient au peuple et non pas à des gens qui peuvent l'inventer ou le réinventer à travers leur histoire ou bien leur culture. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Maintenant, deuxième point intéressant, c'est par rapport à ce que vous dites sur la violence conjugale. Là-dessus, il faut faire très attention. Dans certaines coutumes, on a le droit, on a tous les droits sur la femme. On peut dire à sa femme, viens. Là, 14h, moi j'ai envie. Ah, finalement, j'ai pas envie.
Ah.
On peut même dire à sa femme, ah, je te sens plus, dégage. Ce qu'on appelle la répudiation. Dans des systèmes juridiques d'inspiration culturelle et coutumière, comme le Sénégal, le Mali et autres, il fut un temps, on peut répudier sa femme. Moi, ça m'a choqué. La première fois que j'ai appris le droit, la première chose que j'ai faite avec une ONG, c'est de faire une information à travers plusieurs villes, ça remonte à 20 ans, pour dire, attendez, on ne peut pas répudier quelqu'un, parce que j'ai vécu ça à 12 ans, pas personnellement, j'étais en vacances quelque part où j'ai vu un monsieur dans le quartier qui dit à sa femme, mais finalement tu pars, tu ne m'écoutes pas, j'ai le droit de prendre une deuxième femme, je te répudie, 3 fois. Il applique la loi islamique ou bien la loi d'inspiration coutumière islamique, parfois qui n'est même pas islamique, d'inspiration arabique, parce que tout ce qui est arabe n'est pas forcément musulman. Donc il ne faut pas entrer dans ce carcan quand on est dans un système logique, ça veut dire droit positif.
On va
dans
donner notre la système, parole d'accord à d'autres auditeurs.
Ah bien, je vais juste terminer. Merci avec le problème. Amadou, dans notre système, faites très attention, n'essayez pas de valoriser ces arguments pour dire qu'on peut disposer de la femme dans un système où il y a un droit positif. Vous serez délinquant du seul fait de le promouvoir.
Merci Aliou Tall. En tout cas, notre ami Amadou de Grenoble était un véritable philosophe. On va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Doumbia.
Nous vous écoutons.
Bonjour, monsieur Doumbia.
Monsieur Doumbia.
Déjà, je vous remercie pour votre intervention sur ce sujet qui est finalement un tabou dans notre société, notamment oui. africaine.
Très bien, merci.
Voilà, et donc du coup, alors, en plus du droit, moi je pense qu'effectivement on a abordé la question culturelle, parce que en fait, je pense que nous, en tant qu'hommes africains, on justifie toujours les tables de nos sociétés en se basant forcément sur la culture, sur la tradition. Sans justement les mettre en cause de bien fondé de l'acte que nous posons. Donc voilà, donc je voulais juste vous appeler pour signaler cela effectivement, pour dire effectivement, le droit il est important, mais je pense qu'il faut passer aussi par une étape d'éducation de nos sociétés, de nos hommes surtout, en fait, nous, pour qu'on comprenne que la femme est déjà avant tout un être humain comme nous. Et déjà, nos mères sont des femmes.
Sont des femmes, très bien.
Attendez là. Cela n'est pas le droit en aucun cas d'avoir en fait une emprise. Nos femmes sur nos mères, ça ne nous donne pas le droit.
Très bien.
Donc, je pense que c'est tout un effort à faire de la part de nous les hommes. Mais ça doit passer par une pédagogie.
Très bien. Alors, nous avons quelques soucis avec notre auditeur, des fioritures sur la ligne. Pas de problème, Aliou.
Ce qu'il a dit, c'est très pertinent, c'est très intéressant. Moi, je suis en phase avec lui, déjà au niveau personnel. Moi, je suis expert du droit, mais au-delà du droit, je ne suis plus expert, chacun a ses points de vue. Et c'est de là que l'homme intelligent doit comprendre qu'il n'a pas le monopole du savoir sur certaines questions qui dépassent son expertise. Et là, c'est l'intérêt de cette émission. À travers ces interventions, on gagne dans les faits. Et nous, dans notre domaine, on ne peut pas être bon si on n'a pas les faits. Donc finalement, je suis en train d'apprendre avec eux aussi. L'argument qu'il a donné, effectivement, contrairement à ce que l'autre a donné, ça se recoupe. Et ça permet de créer un équilibre juste et honnête. Parce qu'on est des êtres humains, hommes ou femmes, déjà naturellement et au niveau moral, il ne peut pas y avoir de discrimination. A fortiori, au niveau du droit positif, il ne peut pas y avoir de discrimination. Pour ajouter encore un élément, il faut dire que le conjoint victime de violences conjugales peut obtenir une ordonnance de protection. Et c'est très important, il faut le savoir. Que ce soit l'homme ou la femme, vous pouvez avoir une ordonnance de protection avec le juge aux affaires familiales. Et même sans porter plainte, parce que parfois, on peut ne pas prendre votre plainte ou bien on peut vous suggérer de faire une main courante. La victime peut aussi demander à garder le logement pour sa sécurité, à ce que l'autre conjoint violent soit éloigné et que le logement lui soit alloué. Mieux encore, s'il y a des enfants, ces enfants peuvent porter plainte. Les enfants peuvent être victimes de violences conjugales.
Ouais.
Parce que le fait de regarder papa au moment battre l'autre conjoint, c'est une violence très grave qui peut rester dans le cerveau des enfants jusqu'à leur majorité, jusqu'à plus tard. Donc cette violence-là, s'il y a un avocat, il peut demander des dommages et intérêts contre le conjoint qui a battu leurs parents, ça veut dire leur papa ou leur maman. Ça, c'est un élément très important à souligner. Et donc ce préjudice peut être réparé par de l'argent. Et maintenant, donc, on va toujours rappeler avant d'aborder la question donc, suivante pour dire aux auditeurs, pour rapport à la question qui a été posée par Phil, pensez-vous que la polygamie peut être considérée comme une violence conjugale ? Et aussi, admettez-vous le viol dans le couple ? Est-ce qu'il vous paraît normal qu'un conjoint puisse être poursuivi par viol alors que c'est dans le cadre du mariage ? Je parle de la polygamie. La polygamie en tant que telle, il y a le délit de bigamie. On ne parle pas du droit pénal. Le fait de le faire au niveau civil, dans un système comme la France, on ne peut pas être marié deux fois, que ce soit l'homme ou la femme. Il n'y a pas de polyandrie, il n'y a pas de polygamie. Si vous vous mariez à deux reprises, ça veut dire qu'il y a une première union qui n'a pas été dissoute, vous êtes coupable de délit de bigamie. Maintenant, il est arrivé qu'un monsieur, pour faire mal à sa femme, ici en France, dans le 13e arrondissement de Paris, a dit à cette dame, comme tu ne veux pas que je gère ton salaire, tu vas voir, je vais te faire mal. Je vais prendre deux femmes au pays. Parce qu'ici, on ne peut pas avoir des femmes. Il a fait deux femmes. Là, c'est une violence quelque part. Il utilise un camélier juridique, ça veut dire un obstacle juridique, parce que tant que l'autre conjoint ne vient pas ici, on ne peut pas dire qu'il a appliqué la polygamie sur le territoire français pour faire mal à l'autre. À ce niveau-là, cette contrainte matrimoniale peut constituer une violence psychologique. Et d'autre part, des personnes pensent que le fait de transgresser l'esprit de la loi constitue en soi une violence psychologique. Maintenant, c'est des points de vue divergents. Par exemple, à titre personnel, ce que je pense, la polygamie en tant que telle ne peut pas être considérée comme une violence. Mais dans l'appréhension, dans l'utilisation de cette polygamie, effectivement, on peut créer des écarts. Je demande aux auditeurs leur point de vue. Qu'est-ce qu'on pense sur la polygamie? Est-ce que ça constitue, selon vous, une violence psychologique ou pas?
On va prendre cet auditeur. Allô, allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Ouais, c'est Ousmane.
Ousmane, nous vous écoutons.
Bonjour Ousmane.
Ouais, bonjour. Ouais, moi j'avais appelé surtout pour demander à l'avocat.
Au juriste, hein? Je suis juriste. Ali Outal, juriste. Hein?
Ouais, Ali Outal, ouais.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il pense? Il y a un proverbe arabe que j'ai jamais compris qui dit: bat ta femme si toi tu le sais pas, elle le sait.
Ah, moi je connaissais pas ça déjà. C'est
quoi la portée? Puis ma deuxième question, vous parlez des viols dans les couples. Mmh. Est-il arrivé à un homme violé par sa femme d'aller se plaindre à la police ou à la justice? Ceux-ci ne vont pas lui répondre.
C'est très rare.
question très pertinente, cher ami. La question est très pertinente parce qu'il y a des gens, effectivement, par égo, ou bien il y en a qui se sont fait moquer. Il est arrivé une situation où l'homme est parti porter plainte. C'est assez vieux. Dans la jurisprudence française, quand on l'étudie, ou que cette personne se plaignait de n'avoir pas été pris au sérieux, et que même il a été ridiculisé, on dit qu'un grand gaillard comme toi, tu viens ici porter plainte parce que ta femme t'a violente. Il est arrivé un cas que moi-même j'ai traité, un ressortissant africain qui vit à Orléans et qui a été victime de violences conjugales. Et je l'ai encouragé dans le cadre de mon association à porter plainte et à le conseiller jusqu'au bout. Il a eu gain de cause. Le monsieur, la femme l'a rencontré en Afrique lors des vacances. La femme est tombée amoureuse du monsieur. Elle a tout fait, tout diligenté, elle est de nationalité française, pour faire venir la personne dans le cadre de la réunification familiale. Une fois sur place, pour elle, elle a trouvé un bel étalon noir qui doit rester à la maison pour s'occuper que des tâches ménagères et de s'occuper d'elle de la nuit. Le monsieur, naturellement...
Esclavage moderne.
Esclavage, voilà, d'ailleurs qu'on va traiter. Esclavage très moderne. Et d'ailleurs, donc, le monsieur, lui, était venu quand même et jeune, a laissé son boulot et voulait travailler. Il a commencé à aller s'inscrire à Pôle emploi, à faire des formations pour avoir un travail. Et la femme a commencé à se plaindre et à violenter le monsieur. Jusqu'à un jour plus dire que moi, j'ai deux enfants, je t'ai amené principalement pour que tu t'occupes de ces enfants et que tu as fait l'école, tu fais leurs devoirs et que moi, j'ai un bon salaire, j'ai 3 000 euros, tu n'as pas besoin de travailler. Il lui dit non, je suis un homme, je dois travailler. Et ça a commencé. Et jusqu'au jour où il l'a battu carrément violemment et après s'est précipité pour aller courir dehors pour crier que c'est l'homme qui l'a battu. Mais heureusement qu'il y a des voisins qui ont vu le monsieur saigner et que la police est venue. On a suivi l'affaire jusqu'au bout et le monsieur a eu gain de cause. La femme a été condamnée pour violence conjugale. Voilà. Donc là, effectivement, c'est des choses qui se décomplexent de plus en plus. Par rapport à votre première question, dans une religion, l'islam que vous citez qui dit « bat ta femme », moi je ne sais pas, je ne connais pas ce verset, si ça existe, ça ne me concerne pas du tout. Je ne conçois pas une religion dans laquelle on peut autoriser qu'on batte une femme. Ouais. Par contre, dans des religions...
J'ai jamais entendu ça.
Dans des religions, ça existe. J'ai déjà plus ou moins entendu ça. Des gens peuvent contourner des pratiques coutumières du temps pour en faire un dogme religieux pour justifier leurs coutumes barbares et rétrogrades. Mais une religion sérieuse ne peut pas, en mon sens personnel, autoriser cela. Et même si c'est le cas, la loi ne vous le permet pas.
Merci beaucoup, Amadou. On va prendre un autre... Ousmane, pourtant pour moi, on va prendre un autre auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en direct.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est en monsieur fait,
je vous appelle monsieur Ouattara.
Bonjour, monsieur Ouattara.
Monsieur Ouattara.
Bonjour. Je vous appelle pour avoir le numéro de Maître Aliou. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui.
D'accord. Gardez l'écoute. Vous aurez le numéro tout à l'heure. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, allô, bonjour. Allô.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Fofana.
Monsieur Fofana, nous vous écoutons.
C'était pour dire tout à l'heure, et répondre un peu à l'auditeur de tout à l'heure, l'islam n'est pas une religion de violence. Mm-hmm. Il n'a qu'à bien revoir sa religion, l'islam dont il parle là. L'islam protège toute la femme et plus d'autres religions même. L'islam demande à ce qu'un homme prépare pour sa femme. Mmh. L'islam demande à ce que même un homme va faire le marché pour sa femme. Mmh. Bon, mais il y a d'autres aussi qui abusent. Il y a d'autres aussi qui profitent de ça pour vraiment dépasser les bornes. Sinon, la religion. Maintenant, moi, ma question que je voudrais poser à Léoutal.
Oui.
C'est-à-dire que si vous êtes marié et que tu constates que ta conjointe, avant de te marier, avait déjà une vie, mais ils étaient mariés coutumièrement, pas légalement. Et toi, maintenant, tu te maries avec elle légalement. Elle te fait venir en France. Et ce dernier vient, il court toujours après, il te fait du chantage en te disant que oui, c'est ma femme, si tu ne la laisses pas, tu vas avoir des problèmes. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que la loi prévoit? Est-ce que il a le droit d'encore approcher sa femme ou bien je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire en tout cas?
Très bien. Votre question, elle est très intéressante, monsieur. Mais elle est très technique. Ouais. Je vous explique pourquoi votre question est très technique. Parce que on pourrait vous dire non à partir du moment où vous êtes marié civilement avec elle dans un pays donné. Par exemple, je donne l'hypothèse où vous êtes en France et que votre femme est en France, mais que son premier conjoint avec qui elle est mariée coutumièrement est à l'étranger. C'est ça l'hypothèse, on est d'accord? Quand vous vivez avec...
Je
n'ai pas compris.
Ah, il est en France aussi?
Il est en France ici aussi.
Tout le monde, tous les trois sont en France, hein?
Ah.
Oui.
Effectivement, normalement, avant de pouvoir épouser votre conjoint, vous donnez un certificat de coutume. Ça veut dire, d'après les coutumes du pays d'origine, est-ce que cette femme est libre pour se marier ou pas?
Ouais.
Parce que dans ces pays, le mariage coutumier a la même valeur que le mariage civil. On peut se marier coutumièrement et faire une transcription sur les registres de l'état civil et que ce mariage sera opposable dès sa transcription à tout le monde comme un mariage civil. Ça veut dire que faites attention, ce n'est pas parce que le mariage s'est passé entre trois sages du village ou bien à la mosquée, à l'église, que ce n'est pas un mariage qui produit des effets. Donc faites attention, si vous êtes marié civilement, un consulat, une autorité a dû vous donner un document attestant que la femme est libre pour se marier. Si c'est le cas, c'est l'autre qui n'a pas procédé à ce qu'il fallait faire. Ça veut dire que son mariage coutumé n'a pas une force probante.
Et poursuivre peut-être dans la tradition, rembourser la dot, je pense que, je ne sais pas, sous d'autres...
Oui, mais peut-être que je pense que ce n'est pas la question de la dot qui l'intéresse, c'est plutôt l'autre, il veut garder sa femme.
Ouais.
Parce que la dot, en plus, dans ces pays-là, il y a des lois sur la dot.
Ouais.
La dot, c'est par exemple, si c'est un pays d'inspiration musulmane, par exemple, de coutume islamisée, les dots, c'est basé sur le minimum, ça peut être 5 000 francs CFA, 7,50 euros. Alors que les gens peuvent donner jusqu'à 50 000, 100 000 et maintenant 3 000 euros. Et le paradoxe dans ces lois, il y a une loi par exemple au Sénégal de 1966, quand vous vous mariez, vous donnez une dot de 3 millions, on ne vous l'a pas demandé, pour la restitution de la dot, on ne peut vous restituer que ce que la loi impose. Donc vous pouvez donner 3 millions et ne pouvoir récupérer que l'équivalent de 5 000 francs CFA. Donc je ne pense pas que c'est ça l'intérêt de la question, c'est plutôt de savoir est-ce que juridiquement, vous pouvez continuer votre union avec cette personne, sachant qu'il y a un premier mariage. La réponse est que si vous avez pu donner un certificat de coutume, c'est vous le mari légal. Et normalement, avant de pouvoir vous marier civilement, vous l'avez donné. L'autre, il a perdu. Mais coutumièrement, au regard de la société et moralement, vous êtes en tort parce qu'eux, ils donnent toujours la considération à ce mariage-là. Tous nos parents, en général, de certaines générations, se sont mariés sans pourtant faire des formalités civiles. Et ces mariages existent et des enfants normaux sont nés de ces mariages-là. Donc moi, je vous conseille, et autrement, il y a un problème de droit international privé qui se pose. Ça veut dire un problème de conflit de loi. La loi française, si vous êtes en France, serait en conflit avec la loi du pays d'origine. Dans ce conflit de juridiction qui intéresse vos statuts personnels, la France considère que sa loi a une portée universelle. Donc c'est vous qui avez le mariage légiféré, normalisé en France, qui aurez gain de cause dans la résolution de ce conflit de loi. D'accord?
Okay.
Voilà. Après, c'est une question technique mais qui m'intéresse. Je suis spécialiste de cette question. Et je peux vous donner des conseils donc, dans le cadre de mon association bénévolement pour que vous puissiez trouver une solution heureuse pour tout le monde. À défaut, je peux vous suggérer d'être polyandre. Ça veut dire que vous partagez la femme.
Ce n'est pas sûr. Merci beaucoup pour cette question. Passez une bonne journée, restez à l'écoute encore moins de 4 minutes. Oui, à Lutel, on va prendre un autre auditeur, on va enchaîner. Allô, allô, bonjour.
Oui.
Allô, bonjour. On aurait aimé avoir des femmes ce matin. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô, allô.
Oui.
Oui.
Alléluia.
Enfin, alléluia. Une alléluia. Femme qui va s'exprimer. Nous vous écoutons, madame.
Oui,
présentez-vous.
Alors, je me présente Aïcha.
Aïcha, bienvenue.
Voilà, merci. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je vais essayer de répondre à cette question. Donc, moi, mes parents sont... mon père est polygame. Donc, deux femmes, une femme au pays, une femme ici en France. J'ai toujours grandi avec cela. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement. Pour essayer de répondre à la question de la violence chez la femme, pour moi, elle est assez paradoxale parce que ils sont nés dans un pays, dans une culture qui est pour eux normale en fait. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en France
avec de nouvelles lois, de nouvelles modalités. Mmh. Et du coup, ça porte à confusion, en fait. Oui. Donc, pour eux, en fait, en habitant là-bas, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de naturel.
Oui.
Et du coup, dès qu'ils arrivent dans un pays étranger, tout de suite, c'est quelque chose de pas bien, de mal.
Mmh.
Donc, voilà, c'est parce que le pays français met des règles, met des lois qui nous pousse à la réflexion et nous dit que non, c'est pas normal. Mmh. Mais quel est le mal, quel est le bien en fonction d'un pays et d'un autre, en fait.
C'est vrai.
Moi, la question qui se pose, c'est que voilà, c'est un respect de chaque culture, de chaque religion, bien évidemment. Et après, c'est à chaque couple. Chaque couple va être différent. Il y a des couples où, bien sûr, il va y avoir de la violence, d'autres pas du tout, où il va y avoir une égalité pour les deux femmes, avec un respect mutuel, que ça soit pour les enfants comme pour les femmes. Mmh. Il faut pas oublier que il y a aussi une question.
Allô?
Allô?
Ah, nous l'avons perdu, c'est bien dommage.
Oui,
madame, peut-être que
effectivement,
c'est voilà, qu'elle arrive à ce il reste 1 minute 30 pour répondre et donc, revenir sur la question.
On va aussi la prochaine fois pour annoncer ça. On va dire quelles sont les possibilités offertes,
ouais,
surtout aux immigrés qui sont en France, victimes de violences conjugales pour obtenir un titre de séjour.
Exactement, parce qu'il y a beaucoup de chantage. Beaucoup de chantage à ce niveau à cause
beaucoup de chantage au titre de séjour.
Voilà, titre de séjour.
Il y a des violences. On peut être victime d'esclavage moderne et la loi a évolué. Vous avez des droits pour garder votre titre de séjour, même s'il y a des chantages. On vous les dira, parce qu'il faut les appliquer et passer l'information. Ce sera l'objet de notre entretien la prochaine fois, avant de parler sur l'esclavage moderne en tant que tel sous ses différentes formes.
Voilà, je rappelle donc la question. Quelles sont les possibilités offertes aux immigrés victimes de violences conjugales pour obtenir en France un titre de séjour? Ce sera donc notre sujet que nous allons aborder la semaine prochaine, donc mercredi prochain à partir de 9h10. Heure de Paris, dans le cadre du Droit et Nous, avec Aliou Tal. Vous allez pouvoir écouter cette émission à nouveau sur le site d'Africa Radio, www.africaradio.com.
Et on répondra à Aïcha en débutant l'autre émission, parce qu'elle a soulevé des questions intéressantes, on va y revenir.
Merci Aliou Tal.
Merci Phil.
Dans le plus de la grande matinale, avec Aliou Tal sur Africa Radio.